Shalom, vous écoutez les messages Vie d'Alliance avec le pasteur Alexandre Amazou. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ainsi, les messages Vie d'Alliance vous accompagnent au quotidien dans le but de renforcer votre foi et redynamiser votre vie chrétienne. Faites alliance avec la parole de vie. Dieu vous bénisse.
Alléluia. Le thème, c'est la grâce de commencer et de finir. Ou la grâce pour commencer et bien finir. Parce que une chose est de commencer, une autre chose est de finir. Une chose est de finir et une autre chose est de bien finir. Et ma prière ce matin, c'est que tous ceux qui m'écoutent commencent et finissent. Dis Amen. Tu sais, Dieu est le Dieu qui initie et achève. La Bible dit, il est l'initiateur de notre foi et celui qui amène notre foi à achèvement. Dieu est celui qui commence et qui finit bien. Tout dans la vie, comme je le disais dimanche dernier, n'est pas de commencer. Tout dans la vie n'est pas comment tu commences ou où tu commences, mais comment tu finis et où tu finis. Et tu sais, depuis un certain moment, Dieu ouvre mes yeux sur nos pères. Quand je dis nos pères, Dieu ouvre mes yeux sur ceux qui nous ont engendrés. C'est-à-dire, quand je rentre en contact avec une famille, la première question que je pose est ton père et ta mère. Et ton père et ta mère. Mais c'est bizarre. Je me rends compte que la plupart de nos parents biologiques, excepté quelques-uns, finissent mal. Finissent dans la misère. Finissent grabataires. Finissent dans la honte. Si c'est pas AVC qui les prend, ils finissent avec un pied tordu. Ou ils finissent complètement malades, c'est-à-dire complètement diminués. Ou ils finissent complètement zéro. Mais quand tu regardes leur passé, leur histoire, et tu regardes même certaines photos, on te dit que c'est le monsieur qui est couché là, tu vas dire non, c'est pas lui. Comme s'il y avait un esprit dans les familles qui travaille pour que quel que soit ce que tu deviens dans la vie, quelle que soit la civilisation que tu as obtenue, quel que soit le pays que tu as fait, quel que soit tout ce que ta vie a été, tu dois finir mal. Ça m'a interpellé. Et ce matin, je parlais avec quelqu'un qui me disait, ah, pasteur, il faut qu'on prie parce que j'ai ma mère qui est arrivée, mais vraiment dans un état où personne ne l'a reconnue. Je dis, mais elle a quoi? Et il me dit, ça, il me cite certaines choses. Mais quand tu regardes, tu sens que dans ce qu'il dit, il y a une main invisible. C'est-à-dire, tu n'as pas besoin d'être spirituel pour savoir que quelque chose ne va pas. Automatiquement, quand il est parti, Dieu me dit, tu sais, c'est foutu. C'est tout ce que Dieu m'a dit. Et très souvent, quand quelque chose doit arriver, Dieu me dit, si, je suis honnête avec vous, plusieurs fois, il y a des cas, on dit non, il faut qu'on aille. Dieu me dit, non, c'est pas la peine, va. Fais tout pour que la personne donne sa vie à Jésus parce que c'est terminé. Pourquoi la vie est comme ça? Et si chacun peut observer sa famille, chacun peut observer ses parents et voir que cette tendance-là, il y en a tellement. Hein, dans les familles, dans les maisons, les gens, ils commencent bien, ils finissent mal, ils commencent quelque part, ils n'achèvent pas, tout ce qu'ils font est à moitié, leur vie est comme ça, il y a toujours quelque chose qui est bizarre quelque part. Alors, nous, qui aujourd'hui sont arrivés à la lumière de la parole de Dieu, il est important de ne pas être ignorant. Parce que sincèrement, moi, j'ai pas envie de mal finir. J'ai pas envie de finir grabataire. J'ai pas envie de finir. Parce que moi, je considère que quelqu'un peut vieillir. Et vieillir bien. Tranquille. Avec la paix, il y a des vieux, quand tu les vois, c'est des vieux, mais vraiment paisibles. Tu sens que Dieu les récompense dans la vieillesse. Ça, c'est bon. Et encore toi, il y a Jésus dans ton cœur. Et fini, un pied quelque part, on dit accident, va, on dit le pied, on cherche le pied gauche, on ne voit pas. God forbid, dis God forbid. Ça ne sera pas ta portion. Mais c'est des choses, il faut prier pour. C'est des choses d'actualité. Hein. Je ne suis pas en train de plaisanter. Avant, tu m'as dit, non, il y a un pasteur quelque part, qu'est-ce qu'il a eu même? On dit, il a eu mal au ventre, c'est un truc, boum, le gars est parti. Un jeune pasteur, j'ai dit, c'est quoi tout ça? Il y a un, il a mangé viande. On dit non, c'est parce qu'il a mangé trop de viande braisée. Pasteur, apôtre, il est mort. 30, 40 ans, c'est quoi tout ça? L'église est là, maman, femme avec des petits enfants, tout le monde pleure. On ne sait pas, il n'y a pas de tête, il n'y a pas que. Jeune fonctionnaire, si tu as bien beaucoup d'avenir, destiné à être même directeur. D'un cafouillage, il s'est levé, il dit, ça rend visite à quelqu'un. Il a pris la décision de rendre visite. Il arrive là-bas, les gens viennent, on cherche quelqu'un, et les gens le confondent avec la personne, on le prend derrière. Bah, 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 on le tue. C'est quelle décision, ça? C'est quelle décision, ça? Un frère, vous le connaissez, je ne vais pas entendre la dire, que vous avez connu, pour certains ont connu. Quelqu'un vient lui dire, accompagne-moi à Bassam. Et puis rentre. Il prend sa voiture. Il s'en va accompagner le gars à Bassam. Il revient plus. C'est quoi tout ça? Il a décidé de faire du bien à quelqu'un qui lui a dit, pardon, si tu m'accompagnes à Bassam. Il dit, la vie, là. La vie, là. Quand vous voyez quelqu'un qui a duré, c'est une moisson. Ne prenez pas les trucs comme ça. C'est pourquoi ce thème-là est un thème important pour tout le monde. Nous allons lire la première lecture, Philippiens 2, verset 13. On va se tenir debout dans sa présence en signe de respect pour sa parole. Philippiens 2, verset 13. Philippiens 2. Tu ne finiras pas mal au nom de Jésus.
Car, oui, c'est Dieu qui produit en vous,
oui,
le vouloir et le faire,
mm-hmm,
selon son bon plaisir.
Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Philippiens 1, verset 6. Oui.
Je suis persuadé.
Je suis persuadé.
Que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre.
Que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre.
La rendra parfaite.
La rendra parfaite, c'est-à-dire l'achèvera.
Pour le jour.
Pour le jour.
De Jésus-Christ.
De Jésus-Christ. Le jour de Jésus-Christ, vous savez, c'est quoi? Ce n'est pas forcément son avènement, hein. Le jour de Jésus-Christ, c'est le temps que Dieu a fixé pour la fin de ta mission. Samuel 3, verset 12. Écoutez ce passage. Oui. 1 Samuel 3, verset 12.
La Bible dit, en ce jour-là,
oui,
j'accomplirai sur Élie,
mm-hmm,
tout ce que j'ai prononcé contre sa maison.
Mm-hmm.
Je commencerai et j'achèverai.
Je commencerai et j'achèverai. Dieu achève toujours ce qu'il commence. Est-ce qu'on peut dire amen?
Amen.
Merci, vous pouvez vous asseoir dans sa présence. Alléluia. Frère, la grâce pour commencer et pour bien finir. Est-ce que quelqu'un peut répéter avec moi? La grâce pour commencer et bien finir. Vous savez, dans la vie, les hommes retiennent toujours ta faim. Les hommes, à un moment donné, tes échecs, ils oublient. Quand tu as réussi et tu as bien fini, là, c'est ce qu'ils retiennent. Quand vous prenez des gens comme Martin Luther King, quand on parle de lui aujourd'hui, qui parle des moments de difficulté ou des moments où il a pris des décisions qui n'ont pas marché. Même de Mandela, on parle de ce qui a marché. Les hommes retiennent toujours la fin de l'histoire. Voilà pourquoi, qu'importe la façon dont tu as commencé, tu as peut-être mal commencé parce que la vie ne t'a pas favorisé. Mais tu n'es pas obligé de mal finir. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Et vous voyez, pourquoi il est important de bien finir? Parce que regardez, quand vous prenez un exemple simple, vous prenez par exemple le soleil, vous prenez par exemple les feux d'artifice. Quelle est la différence entre un feu d'artifice et le soleil? Les feux d'artifice, ils font beaucoup de bruit, ils éclairent comme le soleil, ils font même des choses que le soleil ne fait pas. Ils sortent des images, des couleurs, mais à la différence du soleil, c'est que eux, ils ne durent pas. Quand ils font papa, dans 10 minutes, le spectacle est terminé. Maintenant, imagine-toi un planteur qui observe des feux d'artifice et qui planifie, par exemple, une moisson, la moisson de son champ sur le feu d'artifice. C'est un homme normal. Pourtant, le soleil ne fait pas tout ce spectacle-là, mais le soleil dure dans le temps. Et Dieu donc veut que notre vie ne soit pas comme un pétard. C'est-à-dire une vie qui fait du bruit, qui fait des éclats, qui fait des belles choses, mais juste pointant. Et puis après, on dit le gars il est où? On le voit plus. On dit le gars qui tenait les béliers, puis tout le monde était assis jusqu'à sous la route, là, on le voit plus. On dit non, la maison est devenue chose, un magasin de paille. Où il faisait l'église là. Il est où? On dit non, il est quelque part aux États-Unis, on sait pas. Ah non, je dis, faut dire non. Alléluia. C'est pas bon, église. Voilà pourquoi chacun doit prendre conscience que Dieu t'a envoyé sur cette terre pour une mission. Il n'y a pas quelqu'un qui vit, qui n'est pas là pour accomplir quelque chose. Et ce pourquoi Dieu t'a envoyé, tu dois l'accomplir et l'accomplir bien. Je dis qu'importe ce que la vie a fait, parce que la vie a fait des injustices. La vie a fait en sorte que certaines personnes, aujourd'hui, se retrouvent dans des situations qu'ils n'ont jamais voulu ou sont dans des situations difficiles. Mais ce n'est pas ça le plus compliqué. Le plus difficile, c'est de prendre conscience que Dieu a la capacité de changer les choses, même dans le parcours. Dieu peut changer les choses. Sinon, ta vie va être quelque chose de comme ça. Dieu m'a interpellé, il m'a dit, vous êtes en train de bâtir, vous êtes en train de construire une œuvre, mais il ne faudrait pas que ce soit une œuvre de saison, mais qu'une œuvre qui traverse les âges. Et moi, je n'ai pas envie. Je voulais dire, si c'est pour des petits trucs, ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas. Non. Je l'ai dit au Seigneur, si c'est pour venir faire un peu de bouquin et puis après tu disparais, ça ne m'intéresse pas. Parce que Dieu lui-même n'est pas intéressé par ça. Dans ton secteur d'activité, là, tu vas tenir dans le temps. Je dis, les gens vont croire que tu es tombé, tu es simplement comme un roseau. Tu es plié, mais tu peux pas te casser. Dis amen. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen très fort? Dès qu'on t'a relâché, tu reviens comme ça. Tu te repositionnes. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Dieu veut qu'on soit comme le soleil. Toute la vie s'organise autour du soleil. Parce que le soleil est sûr. Et Dieu cherche des hommes sûrs. Mais un feu d'artifice, pas, on dit 31. Les gens vont, dès qu'ils regardent, 10 minutes, c'est fini. Après, même pour te rappeler, tu ne sais même pas c'est quoi. Qu'est-ce qui est sorti? Lis-moi Hébreux 3, verset 14. Hébreux 3, verset 14. Ce matin, j'espère que tu vas m'écouter. Je suis juste à l'introduction. Oui, vas-y.
car nous sommes devenus participants de Christ,
oui,
pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement.
Il dit, pour que nous retenions fermement jusqu'à la fin. Frère, le plus compliqué dans la fin du christianisme, là, c'est comment garder la constance dans la course. Il dit, retenir fermement ce qu'on a pris au départ, là, jusqu'à la fin. Et il y a un autre verset qui dit, si vous persévérez jusqu'à la fin, c'est alors que vous serez sauvés. Donc, ce verset-là m'a interpellé un peu ce matin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le salut est attaché à l'achèvement. De quel salut parle ici? C'est pas la nouvelle naissance. Hein. La nouvelle naissance, c'est le commencement. Quand tu es né de nouveau, là, c'est pas fini. Mais c'est quand tu persévères jusqu'à la fin qu'on peut attester ton salut pour dire il est sauvé. Sinon, tu n'es pas encore sauvé. Tu es en train d'être sauvé. Alléluia. 2 Timothée, on l'a lu, 4 verset 7. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, j'ai combattu le bon combat. Vas-y.
J'ai combattu le bon combat.
Oui.
J'ai achevé la course.
J'ai achevé la course.
J'ai gardé la foi.
Mais attendez. Où il trouve son assurance pour dire qu'il a achevé sa course? Parce que quand tu achèves, Dieu te dit que tu as achevé. Il dit, j'ai achevé ma course. J'ai achevé ma course. Il dit, maintenant que j'ai achevé et j'ai gardé la foi, la couronne de quoi?
La couronne de justice m'est réservée.
Donc, la récompense est attachée à la finition. L'expérience de ton père ne sera pas ton expérience. Tu sais, il y a des choses, quand tu les reçois, elles changent ta vie. Jean 17, verset 4. C'est Jésus qui parle. Oui, qu'est-ce qu'il dit?
Il dit, je t'ai glorifié sur la terre.
Je t'ai glorifié sur la terre.
J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire.
Il dit, l'a achevé. Comment il le sait? Il le sait. Il dit, j'ai achevé l'œuvre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée. Continue.
Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même.
C'est-à-dire, il dit maintenant, la gloire qui m'est réservée là, maintenant, donne-moi. Parce que j'ai fini. J'ai achevé l'œuvre. Tu n'as pas le droit de mourir sans achever ce pourquoi Dieu t'a destiné. Je dis, dis Amen avec conviction. Tu n'as pas le droit de quitter la terre sans finir ce pourquoi Dieu t'a créé. Maintenant, si tu ne sais pas pourquoi tu es sur la terre, il est important de demander à Dieu. Dieu va te dire exactement pourquoi il t'a envoyé sur terre. Mais tu n'as pas le droit de mourir avant le temps. Merci, pasteur. La grâce pour commencer et finir. Frère, il te faut beaucoup de grâce pour passer les difficultés de la vie. Dans notre course vers l'accomplissement de notre destinée, il y a beaucoup de pièges, beaucoup d'obstacles. Et chaque obstacle est destiné à te sortir de la course. Chaque obstacle est destiné à faire en sorte que tu n'atteignes pas le but, que tu rétrogrades et que tu ne finisses pas. Parce que Dieu, il te propulse pour que tu atteignes le but. Satan travaille pour que tu n'atteignes pas le but. Maintenant, à ce niveau-là, il te faut la grâce. Mais quand on parle de grâce ici, de quoi il s'agit? Quand on définit la grâce, qu'est-ce que c'est que la grâce? La grâce est une capacité. Tout le monde dit avoir capacité. Oui. C'est, les gens, on dit souvent, la grâce est une faveur imméritée. Oui, mais ça là encore, c'est un peu, les gens ne comprennent même pas. La grâce est une capacité, un peu comme si c'est un pouvoir. C'est une ressource. Maintenant, tu peux me dire, c'est quel type de ressource? La grâce est une ressource. Mais quand je dis ressource ou capacité, C'est-à-dire, elle a un volet naturel et elle a un volet spirituel. Ça, c'est quelque chose d'important que je veux que tu retiennes. C'est-à-dire, la grâce est une capacité. Mais cette capacité-là n'est pas que spirituelle. Parce que quand les gens pensent à la grâce, ils pensent à un pouvoir que Dieu me donne pour faire cette... Oui, Dieu va te donner. Il y a ce volet spirituel, ce volet surnaturel de la grâce, mais il y a un volet physique dans la grâce. C'est en cela que je parlais dimanche dernier de caractère, et on va y arriver tout à l'heure. Amen. Donc, la grâce est une capacité que Dieu communique à un croyant pour lui permettre, écoutez la définition, c'est très important, c'est approprié. Dieu communique cette capacité-là à un croyant pour lui permettre d'achever ce que Dieu a planifié de sa vie. En d'autres termes, la grâce de Dieu est là pour que tu puisses achever ce que Dieu t'a communiqué comme mission. Donc, la grâce ne travaille pas pour tout ce qui ne participe pas à achever ta course. Parce que beaucoup de gens pensent que la grâce est là, elle fait tout. J'ai besoin de grâce pour soulever ça, donc je soulève. Si soulever ça participe à t'aider à achever ta course, la grâce viendra pour que tu puisses soulever. Sinon, tu vas soulever avec ta propre force. Parce qu'en fait, c'est une capacité, c'est comme, c'est-à-dire, on peut dire, c'est quelque chose d'immérité. C'est-à-dire, c'est une capacité supplémentaire que tu ne mérites pas, mais que Dieu te donne, que Dieu met à côté. C'est un peu comme un compte en banque qui est là, qui n'est pas ton compte, ce n'est pas ton travail qui a produit ça. Mais ce compte-là est là pour que, quand tu n'as plus les ressources liées à ton travail, que ce compte-là vienne à ton secours. Mais il ne vient pas à ton secours pour faire ce que tu veux. Il vient à ton secours seulement quand la mission que tu as faite est dans la droite ligne de ton mandat. Ça veut dire que si tu as fait autre chose, que ce n'est pas dans ton mandat, tu ne peux pas signer le chèque de la grâce. Voilà. Est-ce que quelqu'un comprend? Parce que ce volet est très, très important pour continuer. Donc, Dieu te donne la grâce pour que, à chaque fois que il te faut quelque chose face à ta destinée, que tu puisses avoir les ressources pour attaquer la chose. Amen. Donc, je dis, cette grâce est une capacité, elle a deux volets. Et j'ai parlé de caractère. On va y revenir tout à l'heure. Alléluia. Donc, le premier volet de cette grâce-là, j'ai parlé de ça un tout petit peu en parlant de le caractère à quatre dimensions. Maintenant, je veux que tu retiennes que le caractère n'est pas inné, il est acquis. C'est très important. Le tempérament est inné, mais le caractère est acquis. Ça veut dire, on ne naît pas avec le caractère. On acquiert le caractère. Alléluia. Alléluia. Et dans la grâce pour commencer et achever, le caractère est très, 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 très important dans le premier volet, c'est-à-dire le volet physique. Et le premier volet conditionne le deuxième volet, qui est le volet surnaturel, où Dieu te communique une capacité surnaturelle. Mais, tu vas voir que le premier volet conditionne le deuxième volet. Exemple. Je vous ai dit dimanche dernier que, pourquoi Dieu, Jésus-Christ, a prié pour Pierre et puis n'a pas prié pour Judas? Parce que voilà deux messieurs qui ont marché avec Jésus. Voilà deux hommes qui sont disciples de Jésus. Et Jésus sait qu'à un moment donné, les deux vont avoir des difficultés. Et il prie pour un et il laisse l'autre. Qu'est-ce qui a fait la différence? Est-ce que c'est parce que Dieu décide simplement de faire grâce à Pierre et puis s'en fout de Judas. Non! La Bible dit Dieu ne fait exception de personne. Ça veut dire, quand Dieu décide d'agir en faveur de Pierre, c'est parce que Pierre a activé la grâce. Je vous dis une chose, hein. S'il a prié pour Pierre, c'est parce qu'il y avait quelque chose en Pierre qui l'a poussé à prier. Et cette chose-là manquait dans la vie de Judas. Étudiez la vie des deux. Vous allez comprendre de quoi je parle. Ne jouez pas avec. C'est la même chose avec Ésaü et Jacob. La Bible dit, Dieu a aimé Jacob et a haï Ésaü. Est-ce que c'est parce que Dieu a de la haine? Non. Est-ce que c'est parce que Dieu a choisi personnellement de ne pas aimer Ésaü? Non. Mais quand vous regardez l'histoire d'Ésaü et Jacob, quand vous étudiez la fin des deux, vous pouvez comprendre pourquoi Dieu a fait son choix sur Jacob et pas Ésaü. Parce que vous allez voir que Jacob avait des dispositions que Ésaü n'avait pas. C'est pourquoi j'ai dit que le premier volet de la grâce conditionne le deuxième. Et parlant du premier volet, on a dit quoi? On a parlé du caractère. On dit quoi? Le caractère a quatre dimensions. Et nous sommes arrêtés sur la première dimension qui est la longueur du caractère. Lorsqu'on parle de la longueur du caractère ou la longueur dans le caractère, cela a trait à la durée. Alléluia. Quelqu'un qui n'a pas la longueur dans son caractère est quelqu'un qui ne va pas durer dans le temps. Et nous avons défini que dans la longueur du caractère, il y a plusieurs valeurs. Valeur numéro 1, c'était quoi? La fidélité. Est-ce qu'on peut dire avec moi la fidélité? Je vais revenir en détail parce que après ce que je vais vous dire aujourd'hui, nous allons revenir sur les valeurs qui composent la longueur du caractère pour que vous puissiez comprendre. Parce que beaucoup de gens ne comprennent pas lorsqu'on parle de fidélité. Alléluia. Personne ne peut durer dans le temps si cette personne-là ne permet pas à Dieu de bâtir en lui la fidélité. Parce que la fidélité est importante pour ne pas abandonner. Un homme qui n'est pas fidèle est un homme qui ne va pas jusqu'au bout. Quand il marche avec toi, dès qu'il y a des problèmes, il s'arrête. Un tel homme même ne peut pas finir. Parce que la fidélité est chronique. Et elle ne touche pas seulement ton identité, mais elle va toucher tous les aspects de ta vie. Ça fait que les hommes infidèles même deviennent infidèles, même dans la façon de s'habiller. C'est un gars, par exemple, tu vas voir, il ne dure pas avec les gens, il ne dure pas avec tailleur, il ne dure pas avec... Il y a des gens, le même tailleur, ils sont avec le tailleur là depuis 10 ans. La même boutique où ils payent... Parce qu'il y a des gens qui ont une nature de fidélité. Tu sais ce que je te dis important, hein? Tu peux prendre pour rire, mais tu ne sais pas de quoi Dieu est capable. Tu sais, pour permettre à un homme de durer dans le temps, les valeurs que je vous ai citées là, ce sont des ingrédients. C'est comme la matière première. Quand la matière première n'est pas dans la personne, cette personne, quel que soit ce qui va arriver, elle ne durera pas dans le temps. La fidélité est la première valeur. Tu ne sais pas être fidèle, tu ne vas pas durer. Des gens, même leurs amitiés, ça fait 2 semaines. Et puis, par là, bien, ils quittent là. Tu leur donnes un boulot, ils commencent chaud. Ils sont contents et tout. Après 3 mois, c'est terminé. Ils descendent comme, non, c'est pas permis. Il n'y a pas de constance. Mais la Bible dit quoi? Il dit ce que nous avons reçu, notre capacité de tenir le niveau jusqu'à la fin, est-ce qu'il va établir notre salut? Comment garder le premier amour que nous avons reçu pour Dieu là? Jusqu'à la fin. Si tu n'es pas un homme fidèle, tu ne peux pas. Oh. Quand on va définir la fidélité et qu'on va entrer dans l'enseignement sur spécifiquement la fidélité, tu vas comprendre que, mon ami, si je m'amuse à ne pas être fidèle, je suis un homme mort. Les gens pensent que c'est un slogan quand on dit Dieu est fidèle. On dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Pourquoi on définit Dieu comme le Dieu fidèle? Frère, si Dieu n'est pas fidèle, il n'y a pas quelqu'un ici qui peut tenir. La fidélité n'est pas quelque chose qu'on fait, c'est quelque chose qu'on devient. On va revenir ici en détail. Deuxième valeur, j'ai parlé de quoi? La stabilité. La stabilité. Je vous ai dit, partout où vous voyez quelque chose qui tient, ça veut dire qu'il y a de la stabilité. La stabilité est une valeur importante. Alléluia. Dieu bâtit sur ce qui est stable. Dieu bâtit sur ce qui tient. Quand quelque chose ne tient pas, quand quelque chose n'est pas stable, Dieu ne bâtit pas là-dessus. Il y a un qui se comprend. Aucune stabilité. Il vacille comme ça. Dieu ne peut pas faire ça. Mais tu vois, mais le pasteur, en quoi ces valeurs-là constituent la grâce de commencer et finir? Je vais t'expliquer. Tu sais que quand on va arriver sur la valeur qu'on appelle la valeur de l'intégrité, est-ce qu'on sait qu'une année, il y a un candidat aux élections américaines? Mais je dis, tout le monde est d'accord que si ce monsieur-là se présentait, il gagnait les élections. Mais c'était Dieu. C'était, le temps était arrivé pour lui de prendre la nation, le pays le plus puissant au monde. Il était à son apogée. Mais dès qu'il a décidé de se présenter, les journalistes ont commencé à faire des investigations et ils ont commencé à lui dire, ce monsieur n'est pas bon. Il y a 40 ans en arrière, il devait payer une taxe qu'il n'a pas payée. 40 ans en arrière, il a fait un business, c'est un faux type. 40 ans en arrière, il prend une femme, il sort avec elle, il casse son cou et puis il passe à une autre femme. Le monsieur est venu après pour dire, je m'excuse, il y a des choses qui sont dites contre moi, le temps que je règle tout ça, parce que ce n'est pas vrai, je décide de ne plus être candidat. Et lui-même, il sait que c'est vrai. Mais pendant qu'il se comportait avec, comme ça là, il ne savait pas que c'est ça là qui allait l'arrêter et l'empêcher d'accéder à ce que Dieu voulait qu'il accède. Ce monsieur là, on peut tout dire, il n'a pas achevé ce que Dieu voulait qu'il achève. Pourquoi? Parce qu'au moment où Dieu lui demandait d'être intègre, il a refusé. Il y a des situations qu'on ne peut pas vaincre par la prière. Il y a des situations qu'on ne peut pas vaincre par le jeûne. Il y a des situations qu'on ne peut pas vaincre par, je sais pas, par des offrandes. On l'aide. C'est-à-dire, ces situations-là, c'est seulement par des valeurs qu'on arrive à les vaincre. Donc, en d'autres termes, les valeurs que Dieu nous demande de bâtir en nous, qui sont dans la longueur du caractère, chaque valeur est destinée à faire un combat pour qu'on puisse arriver à bon port. Je te dis, mon ami, tu t'amuses avec certaines choses au moment où tu es sur le point d'être intronisé roi. C'est là la chose sort pour dire, non, il peut pas être roi. Il peut pas. C'est un doubleur. On a un cas comme ça aujourd'hui en France. Thomas Thévenoud. Dès qu'il a été nommé secrétaire d'État, 5 jours après, il n'avait pas eu le temps de s'asseoir. Quand on dit non, il ne peut pas être secrétaire d'État parce qu'il ne paye pas ses taxes et même sa maison n'est pas payée. Le gars dit, je vous remercie, je démissionne. Tout ça, mon ami, ça ne change rien. Ce qu'il devait être, il n'a pas pu être. Là, ce n'est pas jeûne et prière. Hein. Ce n'est pas parler en langue. Je dis, il y a ce que parler en langue fait, il y a ce que prière fait, mais il y a ce que les ingrédients que Dieu bâtit en toi vont jouer comme rôle pour que tu achèves ta course, mon ami. Mon ami, quand je te parle de stabilité, je te parle de stabilité. Il y a, par exemple, est-ce que vous savez que, regardez-moi aujourd'hui, on a commencé, on se bat pour que l'œuvre avance. Si demain, Dieu me fait grâce, si je dois choisir quelqu'un, est-ce que je vais choisir quelqu'un qui est comme ça? Non, je vais choisir quelqu'un qui est stable, quelqu'un qui a été fidèle. Pour lui donner la promotion, pour lui dire, mon ami, prends, parce que tu m'as prouvé ta fidélité, ta stabilité. C'est tout. Mais quand il était fidèle, il ne savait pas que ce qu'il était en train de faire là, était destiné à quelque chose que c'est moi seul qui pouvais lui donner. Parce que vous savez, dans la vie, il y a des choses, c'est, souvent ce n'est pas tout le monde qui peut te donner. Oui, il y a des choses que tout le monde peut te donner. Quand Dieu demande d'être fidèle, ce n'est pas pour rien. La promotion vient avec la fidélité. Il y a des gens qui vont positionner devant toi, mon ami. Si tu as raté l'opportunité, il y a des grâces que tu n'auras plus. Tout homme de Dieu béni. Qui t'a dit tout homme de Dieu béni? Pourquoi tu t'as mis devant tout le monde et puis il a choisi un? C'est important d'être stable. Quand on vous dit d'être stable, la stabilité est importante. On ne peut pas se planter ici, se déterrer, se planter ici, se déterrer, se planter ici, se déterrer, se planter ici, se déterrer. Tu vas mourir. Tu fais ça à une plante, la plante meurt. Tu sais, il faut être honnête pour reconnaître qu'on ne peut pas être partout à la fois. Non. Un homme normal qui grandit, un bébé qui naît, qui grandit là, et qui arrive à un certain niveau là, et puis commence à être un gars bien, il n'est pas, il ne prend pas sain de sa maman, il ne sort pas pour aller taper chez la voisine, il prend sain de la maman, il frappe sur le voisin, il prend sain de la maman. Il sera intoxiqué. Intoxication alimentaire. Frère, tu sais, il y a des choses qui sont rattachées à la constance. Il y a des grâces qui sont rattachées à la constance. La constance. La constance. Voilà. Vous avez dit, même s'il dit A, B, C, D, c'est mon papa. Il dit Y, c'est mon papa. Il dit pas X, c'est mon papa. Je m'en... Même si quelqu'un fait tomber des nuages du ciel, c'est son problème. Que Dieu te bénisse, c'est ton papa. Moi, j'ai choisi. C'est le choix exclut d'autres choses. Et tu sais, un homme qui n'a pas une nature de fidélité est un homme qui n'arrive pas à faire des choix. Parce que le choix est toujours douloureux. Hein? Parce que dans tous les cas, c'est quelque chose d'autre que tu laisses. Voilà pourquoi certaines personnes n'aiment pas faire des choix parce qu'ils veulent rester libres. Mon ami, tu ne peux pas être libre et être utile entre les mains de Dieu. Tous ceux qui sont utiles ne sont pas libres. Regardez l'histoire de l'anon. Jésus dit, j'ai besoin d'un anon pour faire ma rentrée triomphale à Jérusalem. Mais pour entrer à Jérusalem là, c'était un symbole de ce qui doit être. Quand nous allons faire notre entrée à la nouvelle Jérusalem, c'était l'image. Mais il dit, cet événement important qui est notre entrée à Jérusalem là, j'ai besoin d'un seul anon, mais l'anon qui est attaché. Allez dans la ville, vous trouverez un anon attaché devant une porte. Il a une adresse et il a un maître. Si son maître demande, dites l'autre, le grand maître en a besoin. Dieu ne travaille pas avec les gens qui ne sont pas attachés. Après, tu te plais. Mon ami, il y a des grâces et il y a des faveurs qui vont te manquer si tu ne sais pas t'attacher. Moi, j'ai compris ça. Oh. J'ai compris. Avant-hier, tu sais, la fidélité est importante. Hein. Dernièrement, t'as accroché que tu sais que tu dois dire. Bismarck me dit. Bismarck me dit, ah, tu connais le pasteur Pedro de Paris, de Charisma. J'ai dit oui, oh, mais je le connais, mais c'est un gars, on ne peut même pas voir, c'est un gars. Il dit, mais non, mais j'étais avec lui il n'y a pas longtemps. J'ai dit ça, il me parle. Il dit, non, j'étais avec lui là. Je viens de parler de toi. Et que quand je pars à Paris bientôt pour une conférence avec lui, on va aller ensemble et puis bon, je vais voir 20. C'est lié à quoi? C'est-à-dire que quand la confiance est établie, parce que les gens savent que tu es quelqu'un de stable, ceux qui peuvent compter, frère, tout peut arriver à ta vie. Ce que tu vas chercher pendant 20 ans, tu ne peux pas. Mon ami, Pedro là, on ne peut pas voir Pedro. Pedro, on ne peut pas le voir. Pedro, va à Paris, tu vas voir. Il a 12 000 personnes. Il a la plus grande église, je pense, de France, et puis l'une des plus grandes d'Europe. Quand tu arrives à Blanc-Ménil, les voitures s'étendent. Tout. Il n'y a pas quelqu'un à Paris qui a une église plus grande que Pedro. J'ai dit, il est jeune, un jeune portugais de 40 et quelqu'un. Dis-moi, il a aussi dit, c'est pas longtemps. Dieu l'a béni. C'est un homme qui ne fait pas trop de bruit, mais il a de l'impact. Sérieusement. C'est pas Internet, les gens qui font plein de bruit. Il a de l'impact. Pedro. Demandez à ceux qui connaissent Charisma, ils vont vous dire que c'est, il est solide. On peut tout dire sur lui, mais il est solide. Et un tel type, tu ne peux pas voir. Quelqu'un te dit, non, mais on va ensemble et puis tu vas prendre le micro avant que je ne parle.
Est-ce que ça là, si quelqu'un n'est pas sûr de toi et te laisse pas cette plateforme,
mais mon ami, c'est pourquoi savoir être, c'est pourquoi te disperser dans la vie. Il y a des gens qui disent, non, je suis ici. Ça ne fait pas spirituel d'être avec tout le monde. Moi, j'aime pas même les gens qui sont avec tout le monde. Tu es avec tout le monde, reste avec tout le monde. Donc, travaille avec des gens qui sont connectés. Il y a beaucoup de valeurs. Et bon, je vais vous épargner les autres parce qu'on va revenir dessus dans le détail. Maintenant, je vous donne l'exemple d'Abraham. On va aller. Abraham a passé près de 25 ans à attendre un enfant. Abraham était un homme qui avait de la longueur dans son caractère. Premier point que je veux que tu retiennes ici. Je vous ai dit, dans la longueur du caractère, il y a combien de valeurs? Il y a 7 valeurs. Il y a la fidélité, la stabilité, la générosité, la bonne volonté, il y a l'intégrité, il y a l'honnêteté, il y a la pureté. 7 valeurs dans la longueur du caractère. Et Abraham les avait. Nous allons voir quelques-uns. Sa bonté. On peut voir au niveau de la vie d'Abraham qu'Abraham avait beaucoup de bonté. C'était quelqu'un de bon. Vous savez, quand on parle de quelqu'un de bon, il y a trop de gens qui ne sont pas bons. Leurs cœurs ne sont pas bons. Ils peuvent vivre avec toi. Ils peuvent être gentils avec toi tant que tu leur fais du bien. Je ne parle pas de ça. Parce qu'entre toi et le païen, il n'y a pas de différence. Tu fais du bien à ceux qui te font du bien. Non, ce n'est pas ça que je veux. La Bible dit, quel est votre mérite? Abraham a un cœur bon. Quand Abraham a eu le problème avec son neveu, Lot, dans Genèse 14, verset 1 à 3, lis-moi ça.
Dans le temps d'Amagel,
oui,
roi de Chinéa,
mm-hmm,
roi de Lazar,
mm-hmm,
de Kadelomé, roi des Lames et de Tidéal,
mm-hmm,
roi de Cogim. Il arriva qu'il fit la guerre à Béra, roi de Sodome, à Bicha, roi de Gomorre, à Shineab, roi d'Adma, à Shimeber, roi de Tseboïm, et au roi de Béja, qui est Tsoa. Ces derniers s'assemblèrent tous dans la vallée de Sidim, qui est la mer Salée.
Mm-hmm.
Pendant 12 ans, ils avaient été soumis à Kedelomer et la 13e année, ils s'étaient révoltés. Mais la 14e année de Kedelomer et les rois qui étaient avec lui se mis en marche.
Donc, verset 3.
Verset.
Genèse 14. Hein?
Oui, j'ai dépassé.
Ok, va au verset 11.
Les vainqueurs élevèrent toutes les richesses de Sodome et de Gomorre, mm-hmm, et toutes les provisions.
Mm-hmm.
Et ils s'en allèrent.
Mm-hmm. Verset 12.
Ils enlevèrent aussi avec ses biens Lot, fils du frère d'Abraham, qui demeurait à Sodome,
mm-hmm,
et ils s'en allèrent. Un fuyard vient l'annoncer à Abraham, l'hébreu. Celui-ci habitait parmi les chênes de Mamré,
mm-hmm,
l'amoréen, frère d'Eshcalon,
mm-hmm,
et frère d'Aner,
mm-hmm,
qui avait fait alliance avec Abraham.
Mm-hmm.
Dès qu'Abraham eut appris que son frère avait été fait prisonnier,
mm-hmm,
il arma 318 de ses plus braves serviteurs,
mm-hmm,
nés dans sa maison, et il poursuivit les rois jusqu'à Dan.
Mm-hmm.
On va s'arrêter là. Ici, c'était pour vous expliquer comment, à un moment donné, Lot s'est retrouvé dans des problèmes. Ça n'avait rien à voir avec le palabla. Et quand Abraham a appris que Lot avait été fait prisonnier, comment, à cause de la bonté de son cœur, Abraham a mis en marche toute une armée pour sauver Lot. Donc Abraham était quelqu'un qui avait un bon cœur, et quelqu'un qui aimait les gens, c'est quelqu'un qui était bon. Donc la bonté ou la bonne volonté est une valeur importante dans la longueur du caractère. Et si Dieu doit vous amener jusqu'à la fin, c'est quelque chose que vous devez cultiver. Cette matière première ne doit pas vous manquer, sinon, frères et sœurs, il y a des combats que vous n'allez pas pouvoir gagner dans la vie. Tu sais, souvent, c'est important de dire, oui, c'est mon territoire, je défends, tu m'as fait ça, je vais te rendre, et puis les gens sont là, leurs cœurs sont pas bons, ils pensent ça de toi, alors qu'ils rient devant toi, ils rient, leurs cœurs sont noirs. Mon ami, la bonne volonté, avoir un cœur qui est bon, n'est pas négociable si tu veux que Dieu te favorise. Sinon, et tu sais, chose était comme ça, Judas. Judas était, n'était pas bon. Parmi l'un des problèmes que Judas avait, c'est que Judas n'avait pas un bon cœur. Quand vous regardez sa vie avec les autres disciples, tout ce qu'il a fait, il a fait par intérêt. Tout était par intérêt. Tu ne verras pas quelque part où Judas manifestait de la bonne volonté. Un autre point également, c'est la générosité. Regardez ici, vous allez voir qu'Abraham était quelqu'un de très généreux. Ça, on le lit souvent dans Genèse 14, verset 20. Abraham était généreux. Il allait faire la guerre. Et quand il a fini la guerre, tout ce qu'il a reçu comme butin, il a pris, il a dit, il est allé voir Melchizedek, il a payé sa chemise. Ça, c'est de la générosité. Est-ce que vous savez que même prenez sa dîme, si on n'a pas pris le temps de demander au Seigneur de bâtir en nous la générosité, c'est-à-dire être un homme généreux, un homme qui s'est rendu, s'est donné. À un moment donné, on peut faire ça par, de façon mécanique, parce qu'on nous dit, et puis après on arrête. Abraham était généreux. Genèse 14, verset 20, vous pouvez voir, hein, Abraham paya sa dîme à Melchizedek. Il a donné, il n'était pas obligé. La Bible dit même qu'il a donné la dîme sur tout le revenu, y compris les militaires qui sont allés combattre avec lui. Il a coupé la dîme sur leur salaire, qu'ils adorent le Dieu d'Abraham ou pas. Ça y est, tu viens combattre avec lui là. Qu'importe qui tu adores, lui paye la dîme sur tout d'abord, avant de te payer. Ça, c'est un homme. Et c'est à partir de là que on a compris qu'il est important, quand tu as une organisation, de payer la dîme sur ton organisation. De ne pas juste dire, moi c'est mon salaire, je paye la dîme sur mon salaire. Oui, Dieu va te faire du bien, mais et ton organisation, ta société, tu ne payes pas la dîme sur la société. C'est grave. Abraham a payé la dîme sur l'organisation, sur tout ce qu'il a reçu du butin de guerre. Abraham était quelqu'un de généreux. Et aujourd'hui, ça manque à l'église. Les hommes généreux, il n'y en a plus beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. Des gens qui sont généreux, leur cœur, c'est-à-dire, ils ne peuvent pas voir quelque chose qui ne va pas et ne pas réagir. Aujourd'hui, tout le monde est devenu individualiste. Les gens pensent d'abord moi avant nous. Si tu ne cultives pas la générosité, tu ne pourras pas achever. Parce que dans ton parcours, la générosité va faire des combats pour toi que ni ta prière, ni tes jeûnes peuvent faire. Dis à ton frère, sois généreux. Abraham était un homme généreux. Il sait faire le bien. Malheureusement, aujourd'hui, ça manque. Même quand tu demandes aux gens de faire ce qui est normal, ils ne font pas. Ce qui est légitime, ils ne font pas. Combien de gens ici? Je dis souvent, un jour, un pasteur me disait que, non, pasteur, tu ne peux pas savoir. Nos membres t'ont envoyé là. Dieu les bénit. Il dit la plupart, ils s'en sortent. Il y a beaucoup qui s'en sortent. Mais l'église n'est pas leur priorité. Ils s'en foutent. Tu peux parler jusqu'à, tu as plus de salive dans ta bouche. Le gars, il s'en fout de ce que tu racontes. Il te regarde quand t'as dit avant. Ah, parce que vraiment, il faut que Dieu fasse des miracles, hein. Pourtant, il peut être le miracle lui-même. Il peut faire lui-même le miracle, mais il ne fera pas. Ton cœur n'est pas généreux. Ton frère souffre à côté, tu le regardes, tu dis, avant, il souffre. Et puis tu le sautes. Pourtant, le gaspillage qu'on fait dans nos maisons, nous tous, on sait ici.
Oui, je dis, quand on parle de 10 000 francs, on dit, bon, on a besoin de bottes de fer, c'est 50 000.
Il y en a qui disent, hey, pasteur, il y a des femmes qui vont chauffer leur tête, 50 000. Quand c'est fait, elle dit, c'est joli, ça te plaît pas, non, j'ai changé de même. J'aime pas les trucs comme ça. Mais pourtant, c'est 50 000 qui est parti. Mais on dit, bottes de fer, c'est, ah, mais pasteur. Mais bon, aller se faire chauffer la tête, 50 000, elles vont regarder. Si monsieur dit, il n'aime pas, elles vont aller changer encore. Pommade, 50 000. Parfum, 50 000. Les gens payent ça tout le temps. Vrai ou faux? Que Dieu vous bénisse. La générosité. Abraham était généreux. Et il a manifesté encore la générosité vis-à-vis de Lot. Lorsqu'ils ont fait palabre entre les brebis, vous pouvez le voir dans Genèse 13, versets 8 à 9, qu'est-ce qu'Abraham a fait? Abraham a laissé Lot faire le choix des meilleures terres qu'il voulait. Ça, c'est de la générosité. Abraham est long. C'est lui qui a fait sortir Lot. Lot dit, je veux prendre. Il dit, ok, prends ce que tu veux, et puis le reste, donne-moi. Ça, c'est un homme qui avait un cœur généreux. Il n'avait pas de problème pour retenir. Donner n'était pas son problème. Lot dit, je vais prendre. Il dit, ok, prends tout, et puis le reste, je prends. Mais il ne savait pas qu'en faisant ça, c'est là où Dieu allait l'appeler. Dieu dit, Abraham, Abraham, maintenant que Lot a tout pris, lève les yeux. Y compris ce que Lot a pris, je te donne. C'est ce que la générosité peut faire. Souvent, quand les gens te réclament trop, ou pas trop, ils ne veulent pas, je ne veux pas donner. Lorsque Salomon, les gens sont venus voir Salomon avec un problème de bébé, il y a une prostituée qui s'est couchée sur son bébé, elle a tué son bébé, et que l'autre a gardé son bébé jusqu'au matin, et puis, matin, les deux commencent à discuter, le seul bébé qui est vivant. Et on dit, mais on fait quoi? Hey, allons devant le roi. La dame qui a l'enfant a dit, bon, on va couper l'enfant. Salomon, on coupe l'enfant à deux. La dame dit non. Je suis prêt à donner mon enfant. Le plus important, c'est qu'il vit. Tu sais, la grâce de céder te donne tout. Il y a des gens qui sont trop, tu vois, non. Faut pas être trop. J'ai dit, ce à quoi tu t'accroches là, Dieu va t'arracher ça pour donner ça à quelqu'un d'autre. C'est là que tu vas voir que, avec Dieu, on ne s'approche pas trop. Quand tu vois qu'il y a trop de pression, lâche. Trop de chrétiens s'accrochent trop. Trop. Et souvent, à rien du tout. Et tu vas voir que souvent, c'est maladie ou bien un problème qui va prendre ce que tu aurais même pu donner. Et puis, Dieu allait te bénir. Là. C'est maladie qui prend ça. Gratuit. Sans récompense, en retour. Et puis tu dis, oh, mais si j'avais donné ça, la générosité. Une autre valeur qu'Abraham avait également, c'est Abraham était un homme intègre. Tout le monde dit intègre. Genèse 14, verset 23. Vous pouvez lire ça à la maison. Mais je vais te donner l'histoire qui est dans Genèse 14, 23. Abraham refusa de se laisser acheter. Lorsque le roi de Sodome lui a fait des propositions, Abraham a refusé. Contre sa vie, il dit, moi, je ne ferai pas ça. Mais il y a combien de gens aujourd'hui que, tu sais, si Abraham perd la foi, c'est pas pour rien. Je te cite comment Abraham a de la longueur. Et je vais te dire que c'est des valeurs, c'est des ingrédients, c'est des matières premières. Si Dieu doit envoyer un homme jusqu'au bout, quand on prend son histoire, on va pouvoir mettre le doigt sur ces valeurs-là. C'est des valeurs qui sont comme, je sais pas, c'est obligatoire, ouf. Il a refusé. Mais il y a combien de gens qui n'ont pas de, aujourd'hui, qui n'ont même pas de valeurs, qui n'ont même pas de principes de vie. Tu peux les acheter avec 50 000. Et il donne sa parole, tu donnes, tu dis bon, je double à 300 000. Et puis le gars change de parole. Chrétien assis dans l'église. Ils ne savent pas dire non. Une jeune soeur n'a pas payé sa maison. Tu dis, bon les gars, on fait quoi? Je donne 10 millions. Et puis, elle dit, bon, 10 millions. Non. Je veux voir d'abord. On a les 10 millions. Le pasteur a dit d'être sérieux. Et 10 millions. Et allez, je te paye. Bon. Terminé. Tu vois, ça, c'est un manque d'intégrité. Et si aujourd'hui, l'Église comprend qu'il y a des choses sur lesquelles ça, vous devez être, on est non négociable. Votre foi, votre engagement vis-à-vis de Dieu, c'est un, on dit non négociable. Je ne négocie pas avec ça. Mais c'est possible. Les païens ne seraient pas en train de dire que oh, les femmes, elles vont à l'église, mais oh, on les connaît tous, elles vont à l'église, mais c'est juste église. Non. Quand on dit ça à des chrétiennes, ça fait mal. Comment tu peux être chrétienne et puis on t'achète moins cher? Tu as plus de valeur que ça. Dis amen. Ne fais jamais de commerce avec la valeur que Dieu t'a donnée. Abraham était un homme intègre. Genèse 15, verset 1, on peut voir également la manifestation de son intégrité. Genèse 15, verset 1. Lis-moi ça rapidement.
Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision et il dit,
oui,
Abraham, ne crains point. Je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande.
Tu sais, c'est après qu'il a dit, je ne suis pas d'accord. Dieu lui a dit, tu as bien fait. Il ne faut pas avoir peur de la décision que tu viens de prendre. C'est une décision douloureuse. Une décision même qui peut engager ta vie. Parce qu'il s'agit du roi. Et ce roi, il est puissant. Mais il sera avec toi et ta récompense sera grande. Ça, c'est quand on tient sur sa parole. Le problème de l'Afrique aujourd'hui, c'est ça. Hein? L'Afrique a des problèmes parce que nous avons des dirigeants, nous avons des gens qui manquent. Il y a un minimum d'intégrité qu'il n'y a pas. Je dis que quand on est chrétien, je suis d'accord qu'on peut avoir, on peut commettre des erreurs. Ça arrive. On peut avoir des moments de, ça arrive. Mais on ne peut pas être foncièrement malhonnête et vivre dedans. Je ne suis pas d'accord. C'est mauvais. Dis avec moi, c'est mauvais. Stabilité, Abraham était stable. Regardez ici. Romains 4, verset 12 à 21. Dieu lui a fait la promesse et les promesses que Dieu lui avait données a duré dans le temps. Mais regardez comment Abraham a tenu. Lis-moi Romains 4, verset 19 à 21. Je vais terminer avec ça parce que le temps a avancé. On va continuer après. Je termine avec ce dernier point. Oui.
Romains 4, verset 19. Et sans faiblir dans la foi,
oui,
il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point, par incrédulité, au sujet de la promesse de Dieu. Mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir.
Amen. Ça, c'est ton père Abraham. Est-ce qu'on peut dire papa Abraham? Regardez, dans ce que nous venons de lire, il y a trois éléments majeurs qui ressortent pour nous révéler jusqu'à où Abraham était un homme stable. Numéro un, on dit sans faiblir dans la foi. Abraham n'a pas faibli une seule fois. N'oubliez pas que Dieu, quand il parle, entre ce qu'il a dit et sa manifestation, ça peut mettre le nombre d'années que ça va mettre. Dieu n'est sous aucune obligation de faire pour toi ce qu'il a dit d'aimer. Il faut que vous sortez ça de votre tête. Il est Dieu, il est dans sa sphère. De même que tu as le droit de réclamer de Dieu ce que tu veux. Et personne ne te dit pourquoi quand tu pries, si tu veux Lexus et tu veux pas Toyota Corolla. Et tu dis non, moi c'est Lexus que je veux. Tu as le droit de demander ce que tu veux. A Dieu aussi le droit de répondre à ta prière quand il veut, comme il veut, parce que c'est lui qui planifie les destinées. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Mais aujourd'hui, personne ne veut laisser Dieu faire les choses quand il veut, comme il veut. La Bible dit, il a promis à Abraham. Mais le premier point, la Bible dit, sans faiblir dans la foi. Combien de gens, quand ça tarde, faiblissent dans la foi? Abraham était inébranlable. Il n'a pas faibli dans la foi. Deuxième élément que la Bible utilise dans le verset qu'on vient de lire, il dit, il ne douta point. Alors que certaines personnes ou certains commentateurs bibliques même disent qu'Abraham a douté à un moment donné, parce que le fait qu'il est allé prendre Agar pour épouse, ça veut dire que il a attendu la promesse de Dieu, il ne voyait pas la promesse. Non, Otabil a démontré qu'en réalité, Abraham n'a jamais douté de la promesse de Dieu. C'est Sarah qui avait douté à un moment donné, mais naturellement, elle avait douté parce qu'elle n'avait pas reçu la parole. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et c'est plus tard, lorsque les anges sont venus voir Abraham à la maison, que Sarah, pour la première fois, entend directement de Dieu que tu vas avoir un enfant. Elle pensait que la promesse était pour Abraham. Donc, tout ce qu'elle peut faire pour que la parole de Dieu s'accomplisse dans la vie d'Abraham, elle est prête à faire. Mais elle ne savait pas quel était l'élément central de l'accomplissement de la promesse. C'est que lorsqu'elle a reçu la promesse, qu'elle a reçu la capacité maintenant d'enfanter. Donc, il n'a jamais douté. Même quand il est allé avec Agar, il croyait toujours qu'il était dans le plan de Dieu. Parce que Dieu lui a promis un fils. Mais avec qui, il ne savait pas. Donc pour lui, Ishmaël, c'était bon. Dieu lui a dit, non, ce n'est pas Ishmaël, ce n'est pas Agar, c'est Sarah. Il dit, ah, moi, je t'ai toujours cru et je te crois. Il ne douta point. On dit, ayant la pleine conviction, le troisième, ayant la pleine conviction. Donc, Abraham était quelqu'un de stable dans sa foi. Je veux demander à quelqu'un ce matin, je ne sais pas ta situation, ça peut être difficile, mais il faut que tu gardes la stabilité dans la foi. Il faut que tu demeures ferme dans la conviction que tu as. À celui qui vaincra, celui qui va garder la parole jusqu'au bout. C'est ça le vrai combat de la foi. Frère, notre combat là, quand on dit combat spirituel là, c'est pas Satan, Satan est vaincu. Le vrai combat, c'est comment tenir les promesses, comment tenir le niveau de foi, comment tenir l'amour qu'on a eu quand on donnait notre vie à Jésus-Christ. Dans ces temps où tout est mélangé, où tout tend à t'éloigner de Dieu, où la télévision, tout est bizarre, où la foi est devenue mélangée avec de l'eau. Les chrétiens sont dilués café, il n'y a plus de sucre dedans. Comment, dans ce cafouillage, tenir ferme? C'est ça le vrai combat. C'est ça. Est-ce que quand il va retourner, il va te trouver aussi chaud que tu es aujourd'hui? Combien de chrétiens qui sont pas chauds? Un an de conversion, deux ans. Tu les vois dans l'église, ils font tout. Ça, c'est pétard. Ils font même des choses exceptionnelles. Ils sortent des pleurs. Ils dansent même la danse pour tout. Six mois après, ils attendent, ça ne vient pas. Ils viennent à l'église, ils ne mettent pas un sueur, ils sont assis derrière. Ils sont refroidis. Comment garder? Famille Nasson, vous avez baissé votre niveau. La famille Nasson que j'ai vue en mars, ce n'est pas la même famille. L'aigle en train de raser les murs. Comment maintenir la flamme? Non, je vous dis, hein, l'affaire là est sérieuse. Il y en a même qui ne s'assoient plus, ils sont dispersés. Il y en a qui sont assis pour voir là-bas. Tout beau, tout nouveau. On ne pouvait pas respirer ici les dimanches. On n'est même pas un an. On cherche les frères des familles, on ne les voit pas. On dit réunion, ils sont toi. Où sont les autres? Pasteur, j'arrive. Ce que je dis là, c'est le quotidien. Frère, c'est pas facile. Hein. C'est pourquoi c'est un travail personnel que vous devez faire pour maintenir votre foi, maintenir votre amour pour Dieu, maintenir votre engagement pour Dieu. Vous devez vous stimuler, même si personne ne vous stimule, vous devez vous stimuler vous-même à tenir et à vous maintenir droit jusqu'au bout. Quand tout le monde dort, tu es levé. Pas facile, hein. Sinon, tu deviens comme tout le monde. On va s'arrêter là. Parce qu'on peut continuer après. Dans tous les cas, tu dis. C'est sérieux. Je veux que tu puisses ce matin.
Vous avez été béni par ce message. Vous voulez soutenir le ministère du pasteur Alexandre Amazou? Vous pouvez nous adresser un courrier à l'adresse info@abmci.net ou 3xw.abmci.net.